Donc, je vais commencer par une petite introduction, au cas où il y a des gens qui seraient un peu moins au courant de votre parcours. Donc, née à Montréal et ayant fait des études en design industriel, puis en histoire des arts visuels, Véronique Drouin fut d'abord conceptrice de jouets avant de se tourner vers l'illustration et l'écriture. Elle a publié plusieurs romans pour adolescents et pour adultes dans plusieurs maisons d'édition. En 2017, elle a remporté le prix du gouverneur général catégorie littérature jeunesse pour son roman L'importance de Mathilde Poisson. Son dernier roman, Rivière au cerf-blanc, est un roman d'horreur pour adolescents et pour adultes qui relate l'histoire d'Estelle, une étudiante en histoire de l'art qui part en expédition en pleine nature avec son amoureux afin d'essayer de réparer son couple à la dérive. Mais une fois là-bas, de mystérieuses installations artistiques de plus en plus morbides surgissent au beau milieu de la forêt et entravent ce séjour supposé être idyllique, tendant des pièges mortels à ceux qui osent s'en approcher. Donc, en fait, ma première question porterait sur l'originalité de ce livre-là, Rivière au cerf-blanc. C'est rare, en effet, que la menace mortelle qui pèse sur des personnages d'un roman d'horreur provient d'installations artistiques. Donc, j'aurais voulu savoir comment ça vous est venu, cette idée-là.
En fait, quand j'ai écrit La Guillotine, qui était mon premier roman d'horreur, j'avais comme, d'une certaine façon, intégré l'art parce que mes personnages étaient très mélomanes. Étant donné qu'ils étaient mélomanes, j'avais... Il parlait souvent de musique, il y avait souvent une référence à la musique. J'avais même mis une liste à la fin avec, un genre de playlist pour écouter la guillotine. Donc, je sais pas, quand mon éditrice m'a dit « T'as-tu d'autres idées comme ça? » Je voulais intégrer encore l'art d'une certaine façon à l'horreur. Puis souvent, comment que ça va, comment qu'on construit un roman, c'est un amalgame. Ça se fait par toutes sortes d'amalgames. Mon éditrice me dit ça, on était en plein salon de livre, elle dit « T'as-tu une autre idée comme ça? » Moi, je pars dans ma chambre d'hôtel le soir, je dors pas de la nuit, je pense juste à ça. Puis là, je me dis « Comment est-ce que je... » Puis là, je sais pas, ça s'est mis à s'amalgamer, toutes sortes de choses. Il y avait le film Délivrance de John Borman qui a été fait en 1971. Puis c'est justement comme quatre gars qui s'en vont descendre une rivière. Puis je pense qu'ils vont comme détruire un barrage. Puis là, toute la région va être inondée. Fait que là, ils veulent aller descendre cette rivière-là une dernière fois avant que ça arrive. Puis là, bon, ils sont sur la rivière. Puis, mais tu sais, ils sont un peu n'importe comment, parce que j'ai parlé avec des amis qui font justement du canot. Puis là, ben, c'est ça, ils disent vraiment là, la technique, ils l'ont pas. Ils n'ont pas fait leur recherche avant. Mais en tout cas, toujours est-il qu'ils font leur descente de rapide, puis ils rencontrent toutes sortes de menaces. Puis ça m'avait quand même marqué, parce que je trouvais que c'était très difficile. Puis, tu sais, j'aime ça aussi, ancrer ça beaucoup au Québec. Puis au Québec, ben on a des forêts. On a beaucoup de forêts. On a peut-être des maisons hantées, ça, il y en a un peu partout, mais de la forêt, ça, c'est vraiment très québécois. Puis je me suis dit, quand on est en forêt, il y a des craquements, tu sais, on est en camping, il y a des craquements, il y a des bruits, puis on a peur. Alors que dans une forêt, on est la plus grande menace qu'il y a. Il y a peut-être des ours, mais c'est assez rare là, qu'on va au Mont-Tremblant et qu'on se fait attaquer. Fait qu'on est pas mal la plus grande menace. Fait que c'est ça, je me disais, il y a vraiment quelque chose de psychologique dans la forêt qui fait que, en tout cas, ça joue sur notre mental. Donc, je voulais aussi explorer ça. Puis quand j'ai pris des cours d'histoire des arts visuels, j'avais eu un cours d'art actuel, puis bon, ça me disait pas grand-chose. Moi, là, ce qui m'intéressait, c'était plus la Renaissance, puis bon, les grandes peintures, mais ça m'a vraiment offert des perspectives très différentes de ce que je connaissais. Puis on a parlé de land art. Puis au début, j'avoue que j'étais très sceptique, je trouvais ça très étrange, le land art. Je regardais ça, puis... c'est sûr que la fameuse Spiral Getty de... Je me rappelle plus de son nom, il est dans le livre. J'ai un blanc pour l'instant, mais ça, c'est comme une des œuvres les plus connues. Donc, il y a celle-là, mais il y avait des choses comme des gens qui arrivaient avec des camions puis qui dompaient des tas de terre, où il y avait quelqu'un qui avait mis... Ça, c'était vraiment cool, mais des gens de piquets dans un champ. Puis avec ces piquets-là, ça attirait la foudre, puis ça faisait comme des genres de motifs. Bon. Fait que le land art, c'est très large, mais souvent aussi, comme dans l'exergue de mon livre, il y a Andy Goldsworthy, sur lequel je suis tombée dernièrement, puis lui, il fait ça dans la forêt, avec des feuilles, puis des pierres, puis toutes sortes de choses qui sont vraiment, qui viennent de la forêt. Lui, il faut que ça vienne de la forêt pour qu'il s'en serve, mais c'est au milieu de rien. Fait qu'il prend des photos, fait que c'est comme ses preuves, mais après ça, c'est fini. Il vente, il pleut, il neige, puis ça se dégrade, puis des fois, il n'y a plus rien. Donc, dans ce sens-là, moi, je trouvais que c'était vraiment quelque chose d'intéressant à intégrer. Bon, qu'est-ce que, tu sais, la forêt, l'art dans la forêt, puis là, ben la menace. Donc, c'est un peu le chemin, là.
Parfait. Je trouvais aussi que dans le roman, et en général dans votre écriture pour les jeunes, vous avez une sensibilité qui se rapproche beaucoup d'eux. Tu sais, par exemple, vous prenez quand même le temps dans Réveillon Serre-Blanc de parler des problèmes de la narratrice, de ses problèmes de couple, de sa vie étudiante, de sa vie professionnelle qui l'angoisse un peu. Est-ce que c'est quelque chose qui est naturel pour vous d'ajouter ça à vos récits, ou est-ce que c'est quelque chose que vous devez travailler très consciemment?
Non, moi, je pense que ça vient naturellement. Je suis ma première lectrice dans un sens. Donc, moi aussi, il faut que je m'attache au personnage. Puis un personnage qui est vide, tu sais, une fille, ça me dit pas grand-chose. Tu sais, une fille qui est juste une fille, ça me dit pas grand-chose. Donc, moi, j'aime beaucoup développer le côté humain. Puis je trouve que, dans le fond, l'horreur est encore plus horrible parce qu'on connaît les personnages, on s'y attache, on aimerait ça qu'ils s'en sortent, qu'ils trouvent, je sais pas, leur chemin dans la vie. Mais là, ils ont des grosses entraves. Donc, c'est ça. Moi, c'est important, je pense, à travers toute ma littérature depuis le début. Même si c'est dans la jeunesse très, très jeune, comme j'avais fait dans une série qui s'appelle Robin Sylvestre. Bon, ils ont tous leurs problèmes, leurs bagages. En tout cas, ils ont vraiment tout quelque chose qui fait qu'ils sont qui ils sont. Puis de toute façon, c'est un peu comme ça dans la vie. Hein, ouais. Je veux dire, quand on se lie d'amitié avec quelqu'un, c'est toujours parce que la personne elle a quelque chose, elle a un bagage, elle a une personnalité. Donc, mes personnages, pour moi, doivent refléter ça pour que, ben, que le lecteur veuille les suivre, mais d'abord et avant tout, moi, je veuille les suivre.
Et vous abordez aussi des thèmes assez difficiles dans ce roman, mais dans d'autres aussi. Bon, dans Rivière au serment, vous abordez non seulement l'horreur, la mort violente, mais aussi le syndrome de choc post-traumatique, les effets psychologiques que ça a, et à la fin, une sorte de suicide, en fait. Qu'est-ce qui vous pousse à aborder ces thématiques-là qui sont assez difficiles en littérature jeunesse?
Est-ce que je me demande même si j'y pense. Ben, c'est certain que comme dans Mathilde Poisson, je parle de suicide. Ça, c'était, dès le départ, je voulais écrire un livre sur ce sujet-là, mais je m'étais lancé un peu un défi. Je me disais, est-ce que je peux faire un livre sur le suicide qui va être drôle? Parce que je pense que souvent, les lecteurs, ils lisent ça, mais tu sais, c'est pas le suicide comme tel qui fait rire, là. C'est vraiment plus les situations cocasses que le personnage rencontre tout le long. Puis je me suis dit, ben, en tout cas, moi, personnellement, comme ado, tu sais, si on m'avait présenté un livre sur le suicide, j'aurais dit « Oh, je veux pas lire ça, ça va être lourd, puis ça va être, tu sais, je veux pas, ça va être larmoyant. » Puis là, je voulais faire quelque chose, non, je voulais vraiment montrer quelque chose de plus drôle, plus feel good. En tout cas, je pense que quand on termine le roman, là, on a vraiment un sentiment, on a plus le goût de vivre qu'autre chose. Donc, c'est ça. Dans Mathilde Poisson, ça, c'était vraiment conscient. Je voulais faire ça. Dans Rivière au cerf-blanc, ben, je pense que pour humaniser le propos, qui est horrible, puis tu sais, faire en sorte que les réactions des personnages sont crédibles, ouais, réelles, exactement, il faut explorer ces côtés psychologiques-là. On n'a pas le choix d'amener ça. Puis quand ça ne l'est pas, ben là, on trouve que ça ne fait pas de sens, justement, le récit. Parce que des fois, on en lit des romans, puis là, on se dit, ben voyons, il me semble, ça fait deux pages que son chum est mort, puis tu sais, elle déjà, là, elle n'y pense plus. Donc, en tout cas, pour moi, c'est très important de rendre le personnage crédible. T'sais, ça va un peu avec tout le développement psychologique du personnage. Là. En tout cas, j'essaie de faire de mon mieux pour ça.
Oui, mais c'est intéressant parce que justement, dans Regarde au cerf-blanc, vous auriez pu arrêter le livre quand, sans vouloir donner de punch, il y a un personnage qui réussit à sortir de la forêt, finalement, comme plusieurs romans d'horreur font. La dernière scène, c'est le personnage qui est à l'hôpital, puis ça finit là, mais vous avez décidé de continuer, puis de nous plonger dans cet univers-là, comment elle fait pour survivre à ce qu'elle a vécu, et en fait, quelle décision elle prend par rapport à son année, par rapport à ça. Ouais. Est-ce que c'est quelque chose que vous vouliez depuis le début ou c'est quelque chose qui est arrivé avec l'écriture?
La plupart du temps, quand je commence un roman, quand je commence à l'écrire, je sais comment il finit, mais j'ai moi-même des petites surprises. Ouais. Des fois, j'arrive à quelque part vers la fin du roman, puis je me dis, il manque quelque chose. Puis, tu sais, dans le fond, Estelle, quand elle commence, bon, son couple va pas bien, elle sait pas qu'est-ce qu'elle va faire plus tard, elle est bien mêlée. Puis, en fait, il y en a qui peuvent le voir comme une fin qui finit mal. Moi, je le vois un peu comme ça finit bien. Moi, je trouve qu'elle trouve sa voie à la fin. C'est comme ça que je le vois. Elle rentre là-dedans, puis elle sait exactement qu'est-ce qu'elle fait, où est-ce qu'elle s'en va. Fait que moi, je le vois comme ça, la fin. Là, j'essaie de ne pas vendre de punch ou quoi que ce soit, là. Mais pour moi, c'est ça. Moi, je voyais ça comme ça. Parce que... dans la guillotine, est-ce que ça finit encore doucement?
Mais c'est ça, vous faites souvent des fins comme ça. C'est même dans Mathilde Poisson, ça finit, il y aurait de résolu complètement. Pareil pour Hiver Sauvage, on ne peut pas dire que c'est complètement possible, complètement négatif comme fin. Ouais. C'est que vous aimez ces fins comme, des fins comme
oui.
ça, en fait,
un peu. Je trouve que c'est plus réel. Ouais. Dans Mathilde Poisson, elle commence sur le bord d'une falaise, prête à se lancer en bas. Puis je me suis dit, si je fais une fin rose bonbon où tout va bien, tout est résolu, ça se peut pas. T'sais, dans la vraie vie, on va parvenir à surmonter les obstacles, mais on sait qu'il y a d'autres obstacles qui sont possibles après. Puis je pense pas qu'il faut vendre, bon, on peut. Il y a beaucoup de livres qui vendent du rêve où tout va se résoudre, que la fille va ramasser l'homme riche qui va l'aimer ou blablabla. Moi, j'aime ça aller dans un sens plus, plus réaliste. Puis, je sais pas, moi, ça me satisfait comme lectrice aussi quand je lis ça. Ça dépend des gens. Des fois, ça fait du bien aussi, du rose bonbon. Là, j'ai rien contre du gros feel-good, très guimauve. C'est très bien. Moi, c'est ça. Personnellement, je vais un peu plus vers ce que moi m'intéresse.
Oui, c'est aussi justement, entre autres, à cause de ces fins-là qui sont réalistes, de votre refus d'aller soit dans le rose bonbon, soit dans le complètement dark, tout le monde meurt à la fin et c'est fini, à faire des romans qui sont autant intéressants pour les jeunes, mais aussi très intéressants pour les adultes. Je vous l'ai dit tantôt, mais à la librairie, on est plusieurs à vraiment avoir trippé sur Rivière au cerf-blanc. Et donc, je voulais savoir, est-ce que c'est difficile de trouver cet équilibre-là entre une écriture qui va rester intéressante pour les adultes, mais qui ne sera pas trop mature pour les jeunes, ou qui ne choquera pas trop, qui n'aura pas des thèmes trop sensibles pour les jeunes?
Ben en fait, quand j'écris, surtout mes deux romans d'horreur, j'avais pas de public en tête nécessairement. Là, je l'avais écrit comme ça aurait pu être publié pour les adultes. Ouais. En fait, c'est avec mon éditrice qu'on a pris cette décision-là de le faire pour un public young adult, là, comme on dirait. On a pris cette décision-là parce qu'elle disait, bon, les jeunes, ils aiment ça en avoir. Puis, on connaît tous Patrick Sénécal, mm-hmm. qui vise surtout un public adulte. Mais les jeunes aussi en veulent, puis ils veulent une littérature de qualité, pas nécessairement juste des choses très légères ou bon, ils veulent de l'horreur, de la vraie. Donc, on a pris cette décision-là de faire ça pour ce public-là. Mais en fait, bon, ma grande surprise, ça a été qu'avec la guillotine, j'ai eu, mon Dieu, je pense que j'ai eu quasiment autant, sinon plus, d'adultes qui l'ont lu. Puis Rivière au cerf-blanc encore, j'ai eu pas mal d'adultes qui me sont revenus avec ça. Donc, c'est pas... J'ai pas vraiment d'essai. Quoique, je pourrais quand même dire qu'avec la guillotine, j'allais beaucoup plus loin dans la sexualité, dans la guillotine. Puis même beaucoup, beaucoup plus loin. Là, il y avait un peu de violence sexuelle à un moment donné. Puis, on a décidé de laisser tomber, ou en tout cas, du moins, de rendre ça beaucoup plus, plus soft, okay. Pour pouvoir, en tout cas, atteindre un public un peu plus jeune, là, mettons 14 ans et plus. Ouais. Donc, il y a eu quand même un travail qui a été fait là, pour en enlever un petit peu. Okay. Là. Bon, est-ce que ça me dérangeait? C'était pas... Ben, ça changeait un petit peu quelque chose dans l'histoire, mais à un moment donné, c'est un travail d'équipe, l'édition. Donc, on prend des décisions ensemble. Puis, je sais pas que ça aurait donné autrement, mais je suis quand même très contente parce que, dans le fond, le cœur de l'histoire est là.
Oui, ouais.
Ouais.
Justement, dans Rivière au cerf-blanc, vous avez aussi des scènes très gore, là, où est-ce que les personnages se font, disons, assez...
charcuter.
Ouais, charcuter, c'est le bon mot. Et c'est décrit quand même assez, de façon assez graphique. Et justement, est-ce que vous aviez eu une hésitation, justement, étant donné, tu sais, quand vous avez su que finalement un livre serait orienté plus vers un public adolescent, adulte, ou est-ce que c'était correct?
Non, moi, je me suis vraiment pas... Ben, en fait, moi, je me suis dit, je l'écris, puis si jamais il y a quelque chose, mon éditrice me dira. Par contre, en littérature jeunesse, mais là, surtout quand on arrive avec des 14 ans et plus, je peux dire que au niveau de la violence physique, c'est assez effrayant ce que je vais dire là, mais au niveau de la violence physique, il n'y a pas vraiment de limite.
Okay.
On peut aller assez loin, là. Puis bon, mon éditrice, ça me parlait tout le temps de Camille Bouchard, qui avait fait certains livres. Je ne les ai pas tous lus, là, ces livres. Il y en a énormément. Mais c'est ça, avec Camille Bouchard, qui allait extrêmement loin. Je pense qu'il y avait un livre où il y avait une mule qui traversait là, du Mexique aux États-Unis ou quelque chose comme ça. Puis c'était très violent physiquement. Bon, fait qu'elle me disait, au niveau physique, on peut aller à peu près n'importe où. C'est au niveau de la sexualité que ça bloque.
Ouais, okay.
Donc, au niveau, c'est ça. Moi, quand j'écris, je me mets pas de barrière. J'écris ce que j'ai à écrire, puis je me dis, on prendra les décisions qui seront nécessaires après. Mais dans Rivière au cerf-blanc, de mémoire, je crois qu'on a changé aucune des descriptions de charcuterie là, et de violence. Non, on n'a rien fait pour ça. Ouais.
Okay.
Et vous avez écrit près d'une vingtaine de livres, vous disiez 17 tantôt.
Ouais.
Et la plupart sont destinés à un public jeune, soit pour les plus jeunes comme pour les adolescents. Et je veux savoir, en fait, qu'est-ce qui vous pousse vers cette littérature-là qui fait que vous y revenez si souvent?
Ce que j'aime avec les jeunes, c'est que tout est possible.
Mm-hmm.
Ils embarquent. Ils ont le goût, ils embarquent. Alors que les adultes, c'est des fois un peu plus difficile, surtout dans la littérature de genre que moi, j'aime écrire. J'aime la science-fiction, j'aime le fantastique. C'est plus difficile, ben, en tout cas, je dirais peut-être même parce que dans le fond, les adultes en lisent, mais au niveau des médias, puis c'est très difficile de les convaincre. J'ai fait une série en bistome, en 4 tomes, de science-fiction. Et disons que c'était très adulte, là. C'était vraiment pas pour les enfants parce que, bon, le propos était assez complexe. Donc ça, c'était assez évident que ça s'adressait à des adultes. Puis, ça a été très bien reçu, mais ça a été extrêmement difficile à vendre au Québec parce que souvent, les gens, tu leur dis science-fiction, puis ils partent en courant de l'autre bord. Moi, ça m'amuse dans les salons du livre. Là, je leur dis un roman de science-fiction, puis je les vois partir en courant, mais c'est presque vrai. Là. Donc, c'est ça. C'est avec les jeunes, on peut arriver à offrir, à avoir toutes sortes de propositions, vraiment, là, tu sais, dans tous les genres. Puis, eux, quand c'est bon, quand il y a de l'action, du rythme, il embarque.
Ouais.
Donc, c'est certain que j'ai souvent envie de revenir à eux parce que je peux vraiment me lâcher lousse, pour utiliser le terme, là, avec les ados.
Ouais.
Puis justement, cet amour-là que vous avez pour les genres de l'horreur, de la science-fiction, du fantastique, d'où est-ce qu'il vient? Est-ce que c'est quelque chose parce que vous en lisiez beaucoup quand vous étiez jeune ou ça s'est développé plus tard?
En fait, quand j'étais jeune, j'aimais pas lire. Je trouvais ça archi plate, lire, parce que On avait comme offre la comtesse de Ségur, la bibliothèque rose avec Fantomètre et le Club des Cinq. Puis moi, je trouvais, en tout cas, je sais qu'il y en a qui ont trippé là-dessus. Moi, je trouvais ça vraiment plate. Mm. Puis je donne souvent, quand je vais dans les écoles, je donne comme exemple. Moi, quand j'étais jeune, à télé, on avait Hulk, on avait Wonder Woman, on avait la femme bionique. Au cinéma, on avait la princesse Léa, tu sais. Fait que c'était ça mes exemples féminins. Puis quand j'arrivais dans la littérature française, j'avais les petites filles modèles. Ouais. Puis Martine fait le ménage. Fait que moi, non, vraiment pas. Donc, j'ai commencé en lisant du comic book américain. Oui, okay. Donc, j'ai commencé vers, je dirais, à peu près 12-13 ans à lire beaucoup de comic books de toutes les sortes. Là, Spider-Man. Spider-Man, c'est mon premier. Là. Je l'ai acheté au dépanneur, je m'en rappelle, mais je les ai toutes passées, là, les Justice League. Bon. Fait que j'ai lu beaucoup ça parce que, bon, souvent, ça tournait autour du personnage. Le personnage était extrêmement important. C'était vraiment ses aventures. Puis les femmes dans les comic books, depuis très longtemps, parce qu'on peut penser à Wonder Woman, ils rentrent dans la bataille puis ils demandent pas la permission. Fait qu'il n'y avait pas ce sexisme sous-jacent-là dans les comic books. Les femmes, ils faisaient partie de la game. Fait que moi, ça m'intéressait énormément. Puis c'est un peu plus tard, parce que moi, ce que j'ai aimé, ce que je voulais faire à ce moment-là, c'était d'en faire du comic book. Parce que je dessine aussi, j'illustre. Donc, c'est ça, je voulais en faire. Ça m'intéressait énormément. Puis je me rappelle, j'étais au Salon du livre de Montréal avec mon école. Puis j'étais tombée sur un livre de science-fiction avec une couverture qui était, en tout cas, illustrée par un illustrateur qui s'appelle Kaza. Puis j'avais trouvé ça incroyablement beau. Fait que j'avais acheté le livre juste pour la couverture. Là, l'intérieur ne m'intéressait pas. Mais j'ai décidé de l'ouvrir et de voir de quoi ça parlait. Puis là, c'était une tétralogie de science-fiction qui s'appelle Le cycle de Chai. Puis là, j'ai passé à travers ça de Jack Vance. Puis en tout cas, ça a été mon premier coup de cœur. Là, j'ai dit, ah, ça peut être ça, la littérature. Je suis pas obligée là, d'avoir des aventures plates. Ben, moi, c'est certain que je lis de tout, mais je dirais que la littérature très contemporaine m'intéresse moins. Okay. Je suis vraiment comme à part des autres, mais moi, ce qui se passe en 2019 avec une fille très 2019 qui réfléchit 2019, mais je suis ça à tous les jours de ma vie. Là. Je suis une fille qui vit dans le contemporain. Donc, ce genre de réflexion-là, moi, ce que j'aime, c'est aller au-delà. Le « what if ». Justement. Puis ce qui m'intéresse le plus en littérature, c'est vraiment l'anticipation. Comme, mettons, La Servante écarlate. Ouais. Donc, j'aime beaucoup. Puis de toute façon, on voit aujourd'hui qu'il
est si loin de la réalité.
Non, effectivement, ils sont très visionnaires. Donc, c'est là parce que quand j'ai lu de la science-fiction, j'en ai lu énormément. Mais après, j'ai découvert en philosophie 1984 de George Orwell. Puis ça a été comme vraiment mon point de départ, là, où là, ce que je lis le plus encore aujourd'hui, c'est l'anticipation. Okay. Puis quand t'es bonne, vraiment, là, c'est là que j'adore ça. Puis en écriture, j'écris de tout, j'écris du fantasy, du fantastique, mais c'est aussi ce que j'aime le plus écrire. Comme avec Ambliston, où là, ça a été un des projets les plus difficiles que j'ai écrit. C'était... je pense, combien qu'il y avait de pages? 1600 pages. Okay. Et énormément de recherches. Mais c'est le côté anticipation, voir dans le futur, réfléchir à tous les enjeux auxquels on va avoir à faire face. Donc, c'est ça. Ça vient de tout ça, mon amour de la littérature de genre. C'est que c'est une façon, pas juste un exutoire du quotidien, c'est aussi une façon de voir dans le futur puis réfléchir à des enjeux qui s'en viennent. Oui.
Vous parliez notamment pour le comic book tantôt. Est-ce que dans votre futur littéraire, il y aurait un projet de BD, de roman graphique, soit seul, soit avec un BD ou une BDiste?
J'ai souvent pensé. Là, pour l'instant, j'ai comme trop de projets.
Ouais.
Donc, j'ai. Puis c'est très demandant. La bande dessinée, ouais. C'est extrêmement demandant. Puis il y en a énormément de qualité. Je ne sais pas quelle place je pourrais me faire parce que autant que j'ai illustré. Je ne sais pas si je serais capable d'avoir une crédibilité comme illustratrice.
Okay.
Donc, il y a ça. Je commence à peine à avoir une crédibilité comme auteur. Mm. Donc là, ce serait un défi supplémentaire, mais je ne dis pas non à long terme. Okay. Peut-être qu'à un moment donné, je vais avoir un peu plus de temps dans ma vie, puis je vais l'essayer parce que j'ai toutes sortes d'idées, de choses à raconter, peut-être sous cette forme-là. J'avais même une idée de projet à un moment donné que peut-être je reprendrai à un moment donné, mais pour l'instant, c'est difficile. Ouais, ouais.
Vous avez aussi parlé de votre série Ambistone, qui ouais. est votre seule série pour adultes, si je ne me trompe pas.
En fait, j'avais écrit un roman pour adultes en 2012, je crois, qui s'appelait La Chatière, puis qui était, ben, en tout cas, ils ont classé ça dans la littérature d'Amérique, mais il y avait une petite twist fantastique pareil. Okay. Pas capable de m'en empêcher, c'est comme ça.
Tout le temps là-dedans.
Oui.
Et vous avez choisi un pseudonyme, en fait, pour Ambistone.
Oui.
Je trouvais ça intéressant. Est-ce que c'était pour vous dissocier de votre carrière en littérature jeunesse?
D'une part, okay. oui. Puis aussi le fait qu'en science-fiction, être une femme, c'est très difficile d'avoir une crédibilité.
Encore aujourd'hui, ouais, vous voyez la...
Je veux
ouais.
dire, une femme, qu'est-ce que ça connaît à la science? J'aurais beau avoir fait toutes les recherches que j'ai faites. Des fois, je regarde ça puis je me dis, ça avait été un homme qui l'avait écrit, il n'aurait pas eu la même réponse. Je reste convaincue.
Ouais. J.K. Rowling, il y a 20 ans... a ouais. dû mettre juste une initiale pour pas marquer le fait qu'elle était une femme, en fait.
Oui, bien, en fait, moi, au tout début, quand c'est sorti, les gens étaient convaincus que c'était un homme qui l'avait écrit. Okay. Puis, j'avais des bonnes critiques, puis tout. Puis, c'est drôle, quand mon identité a été dévoilée au quatrième, il okay. y en a qui se sont permis des commentaires oh, un okay. peu plates, ouais.
Oh,
ouais.
wow, okay.
Ah, ben, c'est pour ça que les phrases étaient bizarres. Ah, c'est pour ça que je comprenais pas trop où est-ce que A s'en allait, tu sais. Il y en a qui étaient très contents, là. Ouais, mais ouais. j'ai eu quelques commentaires, puis je me disais,
hey, on n'a pas évolué dans ça.
Ben non, on est encore là.
Mais d'où la pertinence d'avoir une femme qui écrit de la science-fiction pour briser un peu sa
voulure. Oui, mais je pense que, en tout cas, j'espère qu'on va pouvoir en écrire sans avoir des pseudonymes, puis avoir de la crédibilité bientôt. Puis aussi, parce que je vois beaucoup de romans. Comment je dirais bien ça? Beaucoup de d'auteurs de littérature blanche, mm-hmm. je ne sais pas si je peux dire ça comme ça, mais qui s'essayent à la science-fiction aujourd'hui. Puis des fois, je lis ça, puis je me dis, puis des fois, ils sont encensés, puis je m'arrache les cheveux, puis je me dis, lisez-en avant, parce que des fois, je trouve tellement que ça ne se tient pas. Mm-hmm. La science-fiction, c'est pas d'écrire n'importe quoi. Ah,
c'est très complexe pour que l'univers se tienne.
Effectivement. Puis, surtout la science-fiction, il y a des choses qui, actuellement, des recherches qui se font, qui peuvent, nous aider à tout créer, les univers. Puis, il faut pas négliger ces choses-là. C'est des choses qui existent et qui vont exister. Puis là, des fois, quand je vois qu'ils mettent tout ça de côté puis qu'ils décident que le futur, ça va être ça. Puis que là, tu te dis, ouais, mais ça ne peut pas fonctionner. Je trouve ça un peu désolant. Fait que la science-fiction, ce sera pas juste que les gens en écrivent, mais qui s'intéressent à ça, qui en lisent, puis qui l'écrivent bien.
Ouais, sérieusement, avec une démarche.
Oui, effectivement. Puis c'est pas parce que tu es un auteur primé que tu peux écrire n'importe quoi. Ouais, puis c'est ça, te dire que ça va fonctionner parce que tu as une belle écriture.
Ouais.
C'est pas la même chose, la science-fiction. Oui, l'écriture, quand t'as de qualité, c'est merveilleux, mais aussi, il faut que tout se tienne, tous les détails se tiennent. Il faut que ce soit vérifié.
Oui. Je m'en vais un peu dans votre carrière plus générale, parce que vous avez une formation en design industriel,
oui.
ce que je trouve très intéressant, puis vous avez travaillé dans la conception de jouets, comme je l'ai déjà dit, donc je veux savoir, qu'est-ce qui vous a poussé vers ce chemin de l'écriture, parce que vous en faites votre carrière complètement?
Oui, oui, en ce moment, je fais que ça. Ouais. Oui, je fais exclusivement ça. Ça remonte à loin. Quand j'étais au secondaire, j'ai commencé à écrire. Donc, j'aimais l'écriture. J'avais même pris un cours à l'école qui s'appelait Français production secondaire 4 parce que je voulais faire de la bande dessinée. Puis, j'étais pas super bonne. Mais bon, j'ai dit, je vais prendre ça. Puis, c'est là que j'ai eu la piqûre de l'écriture. Donc, vraiment dans ce cours-là.
Vous m'avez dit aussi que La Guillotine avait déjà d'ailleurs été écrite en première version dans ces temps-là.
Oui, une première version qui était archi nulle. Oui, parce que...
Vraiment, ça s'excuse.
Ah oui, oui, c'était vraiment atroce, là, mais c'était... En tout cas, disons que quand je l'ai relu, j'ai dit, c'est mauvais, mais il y a des bonnes idées, fait que j'ai juste pris le bon, ouais. Puis j'ai essayé d'en faire quelque chose. Mais c'est ça, effectivement, j'étais au secondaire, donc j'ai commencé l'écriture à ce moment-là. Mais ensuite, disons que c'était pas évident, tu sais, de dire à mes parents que je m'en allais écrivaine,
ouais.
Ça a pas ben passé. Donc, je suis partie en sciences peu au cégep parce que, bon, j'avais des affinités avec la science. Et j'ai fait mon design industriel, je trouvais que c'était comme un compromis entre l'art et la science. Donc, j'ai fait mon design industriel, puis bon, j'ai trouvé ça très, c'était très le fun. On faisait beaucoup de projets. Ça m'a appris des échéanciers. Mm-hmm. Ça m'a appris à structurer mes projets. Là, vous allez voir où est-ce que ça s'en va après. Mais là, après, bon, je me suis dit, qu'est-ce que je fais? Parce que, bon, on peut tout faire en design industriel. On peut faire des gourdes, on peut faire des luminaires. On peut vraiment... Tout ce qui passe dans une industrie a été dessiné par un designer industriel. Fait que là, j'ai fait un peu ce qui était le plus fun pour moi. C'était les jouets. Mm-hmm. Mais c'est un milieu qui est très difficile, extrêmement difficile, beaucoup de compétition, beaucoup de pression aussi. Donc, étant donné que je dessinais beaucoup, ben, je me suis dit, je vais faire de l'illustration. Fait que là, je suis partie avec mon portfolio au Salon du Livre de Montréal pour montrer ça aux maisons d'édition, puis ça a été vraiment un flop total. Oui, ouais, je me suis fait dire que c'était pas professionnel, que je dessinais pas bien. En tout cas, j'ai été vraiment écrapoutie, là. Mais j'ai bon, il y avait un éditeur qui avait comme aimé ça, c'était le Loup de Gouttière.
Okay.
Donc ça fait quand même, ça remonte à 20 ans à peu près. Donc c'est ça, il avait trouvé ça bien, il m'avait donné un petit contrat, mais tu sais, un contrat, ça paye 300$. Donc on fait pas une carrière avec ça. Fait que là, quand j'ai regardé ça, je me suis dit, puis là, tu sais, je recevais des petits manuscrits, donc je les lisais. Puis là, je me dis, ben peut-être que je pourrais en écrire un, puis je pourrais l'illustrer, fait que peut-être ça va me faire une porte d'entrée pour l'illustration. Mais là, j'ai re-eu la piqûre d'écriture. J'ai commencé l'écriture de quelque chose, je me dis, bon, 10-20 pages, puis au bout de 250 pages, ben je me suis dit, ah, ben finalement, peut-être que je suis capable. Puis, ouais, je pense que je le disais plus tôt, j'arrivais un petit peu à l'âge d'or de la littérature jeunesse. Donc, à cette époque-là, il y avait les Harry Potter, Amos d'Aragon, mm-hmm. qui fonctionnaient beaucoup, beaucoup, puis qui étaient plus gros, parce que la courte échelle, avant ça, c'était des petites plaquettes.
Oui,
ouais, exactement. Fait que là, quand je suis arrivée exactement au bon moment avec la bonne proposition. Donc, ça s'appelait L'île d'Aurélie, puis c'est paru à la courte échelle en 2004. Okay. Donc, c'est ça, il y a 15 ans.
Okay.
Donc, ça a été ça, mon cheminement. Mais le design industriel, c'est un peu un compromis. Mais ça m'a permis beaucoup de structurer mes projets. Parce qu'écrire un livre, il y en a beaucoup qui se demandent, hey, « comment tu fais pour écrire un livre? » Je m'assois puis j'écris. Sauf qu'il faut être structuré parce qu'il faut se dire, bon, à tous les jours, se dire, bon, voici mon chapitre, voici les chances que je me donne. Donc, ça m'a aidé le design industriel à vraiment être capable de faire des projets complets.
Ouais. Justement, comme dernière question, moi, je m'intéresse toujours au processus d'écriture des auteurs. Et surtout, tu sais, bon, comme j'ai déjà dit, vous avez près d'une vingtaine de romans en 15 ans de carrière, donc vous êtes assez prolifique. Donc, je veux savoir, est-ce que l'écriture, pour vous, c'est quelque chose que vous faites à tous les jours, tu sais, c'est une discipline à laquelle vous astreignez, ou ça arrive en période créative, plus, disons, spontanée?
Je le fais tous les jours. C'est certain qu'il y a des bons jours, puis il y a des moins bons jours. Donc, c'est là que, tu sais, l'aspect créatif peut un peu embarquer. C'est que là, il y a des journées où, surtout en fin de roman, là j'écris, je sais pas, une quinzaine de pages, puis vraiment, là, ça y va complètement. Tandis qu'en début de roman, ben, je fais beaucoup de recherches. Des fois, j'écris un paragraphe qui est pas bon. Puis bon, tu sais, c'est vraiment ça. Mais moi, je peux pas dire que j'ai le syndrome de la page blanche.
Okay.
Puis quand, des fois, j'ai toutes sortes d'affaires, toutes sortes d'activités, des salons de livres, des choses comme ça, puis que j'écris pas pendant une période, je viens de mauvaise humeur. Ça, on dirait qu'il faut que ça sorte, là, vraiment, là. Fait que vraiment, faut que je m'y mette. Ça devient un peu un besoin. Puis si j'écrivais pas, ça prendrait quelque chose dans lequel j'écris.
Ouais.
disons, une autre carrière, mais ça faudrait que je puisse écrire, puis que je puisse, je vais sortir le méchant, peut-être. Peut-être pour ça que j'écris de l'horreur, là, je sors le méchant.
Le plus de méchant possible.
Ouais, c'est ça, mais non, effectivement, ça fait beaucoup, tu sais, moi, ça me prend ça, là. Comme là, ça fait quelques semaines que j'ai pas pu rentrer dans des gros projets que je faisais, puis j'ai hâte, là.
OK. Ouais. Je pourrais ouvrir les questions publiques si jamais il y a quelqu'un qui en a. Non?
Je
vais
poser ma question. Ah, tu vois,
j'ai d'abord, en fait, j'aimerais ça peut-être conclure en vous demandant, c'est comme vos prochains projets, à quoi on peut s'attendre de Véronique Drouin dans les prochains mois?
Bon, Véronique Drouin, qu'est-ce qu'elle va faire? En tout cas, elle va écrire, assurément. J'ai un projet de petit frisson, possiblement. Donc, petit roman d'horreur. Avec la fameuse collection qui n'est plus présentée. J'ai un projet qui s'en vient cet automne avec les Malins. Et puis, ben, en tout cas, là, j'espère que ça va... C'est censé être le 17 octobre. Ça, c'est un projet, oui. Okay. Un projet de plusieurs romans. Donc, il va y en avoir au moins trois. Okay. Et puis là, attendez-vous à quelque chose de fantastique, horreur pour les ados. Moi, comme j'ai dit dans mon pitch, j'ai dit... Stranger Things québécois, et même Dark, la série Dark là, sur Netflix. Donc, ça a été comme un amalgame de tout ça, mais vraiment avec une sauce québécoise parce que ça se passe sur le bord du fleuve, dans un centre de réadaptation pour... Ben, c'est le CRAV, un centre de réadaptation pour adolescents anxieux et vulnérables. Donc, une fille, là, elle a ce genre de troubles d'anxiété généralisés. Puis là, ses parents, ils ne savent plus quoi faire avec. Fait qu'ils l'envoient là pour l'été. Puis là, elle est découragée parce qu'elle est avec un paquet d'autres jeunes problématiques. Puis là, ils sont comme dans un... En tout cas, il y en a qui appellent ça un asile. C'est pas censé être ça. C'est censé être pour se guérir puis aller mieux. Mais bon, ils sont tous un peu couteau tiré. Puis un soir, il y a une énorme tempête et il y a une panne d'électricité. Bon, puis le lendemain, ben l'héroïne s'en va se promener sur le bord du fleuve, qui est juste en contrebas. Puis elle trouve, ramenée par la marée de tempête, une jeune fille de son âge, qui est vivante, mais qui était enroulée dans les algues. Puis à partir de ce moment-là, ben en tout cas, là, tout va se mettre à aller mal. Donc ça, c'est le projet qui s'en vient cet automne. Et là, je suis en train de plancher sur un nouveau roman de science-fiction pour adultes, que je ne sais pas du tout quand est-ce qu'il va sortir. Vraiment, là, je suis en train de travailler dessus, puis plus je travaille dessus, plus je me demande... En tout cas, je me dis, ça va avoir besoin de beaucoup, beaucoup de recherche. Ouais, parce que ce qui m'intéresse, c'est l'avènement de la viande artificielle.
OK.
Donc, ce sera cela.
Ça tombe bien, Biomi vient d'arriver dans les épiceries.
Oui, exactement. Donc, c'est ça, une réflexion par rapport à ça, par rapport à ce qui s'en vient dans notre alimentation future.
Parfait. Bien, on va attendre tout ça avec beaucoup d'impatience. Merci beaucoup pour la rencontre.
Merci beaucoup.